Jean-Christophe Debert, le directeur général de la Mission Laïque Française, une association plus que centenaire qui gère un réseau international de lycées français à l'étranger, a répondu aux questions des Français.presse. Dans ce premier podcast, sur une série de trois, nous revenons notamment sur un pays stratégique pour la Mission Laïque Française, le Maroc. Il y a là-bas un certain nombre de parents d'élèves qui sont dans des situations économiques compliquées et qui demandent à ce que certaines aides puissent être fournies par la Mission Laïque. Notre première question à M. Debert a été: avez-vous entendu ces familles et que leur répondez-vous?
Bien entendu, on les a entendus, écoutés. Et ce serait vraiment une faute que de ne pas prêter attention à cela. J'ai d'ailleurs répondu récemment dans un organe de presse au Maroc, qui est l'Économiste.
Absolument.
Justement, qui permet d'avoir un point de vue global sur la question. Et qui renvoie le fonctionnement de l'école à un fonctionnement économique et social qui permet de cadrer le débat. Alors, cette expression parentale, au fond, alors je sais que ça peut ne pas plaire à tous, mais nous l'avons interprétée comme une réaction humaine, normale, issue d'un stress social extrêmement important et d'une angoisse même pour un grand nombre de familles, qui décuple la réaction que traditionnellement nous connaissons. Chaque année, le débat sur le coût de l'école, la capacité des parents à intégrer ce coût de l'école dans leur budget domestique est un problème. À partir du moment où la précarité professionnelle s'introduit dans le débat, alors évidemment, il change de nature. Il prend une ampleur inédite. Et la crise économique l'a emporté, au bout du compte, à dépasser la question de la crise sanitaire. C'est la raison pour laquelle il y a maintenant deux pistes de réflexion qui entrent en collision l'une avec l'autre. Il se trouve que la critique de l'école à distance vient majoritairement non pas de l'insatisfaction des parents, mais plutôt de leur volonté de discuter les droits de scolarité, ceux du deuxième, troisième trimestre en train de venir à échéance, globalement le coût de fonctionnement de l'école et réfléchir sur le prévisionnel pour l'année prochaine.
Monsieur Debert nous a également parlé de spécificités dans d'autres pays et notamment des inquiétudes qu'a la Mission Laïque Française concernant le réseau au Liban et des spécificités très particulières du réseau en Amérique du Nord.
Je crois qu'il y a un dispositif global qui vaut toute géographie confondue parce que le phénomène est le même. Il est caractérisé par la rencontre entre la crise sanitaire qui a tout arrêté dans la vie économique et sociale et ses conséquences économiques. Donc, il n'y a pas de différence de nature entre les différents pays concernés. On a le même phénomène partout. Ce qui apparaît, c'est simplement une gradation dans ce phénomène avec des situations qui sont plus graves que d'autres. J'en citerai une qui nous préoccupe énormément, c'est le cas du Liban, se conjuguent alors plusieurs phénomènes qui sont d'une part, la crise politique sécuritaire et puis la crise économique et financière qui, là, est accentuée par l'épidémie Covid-19, mais qui préexistait au Liban.
Ouais.
Et elle a éclaté avec une ampleur, évidemment, tout à fait importante, et il faut réagir de façon appropriée. Et franchement, là, nous avons des craintes sur l'avenir, ne sommes pas les seuls à nous exprimer.
Est-ce que, très concrètement, est-ce que le grand lycée franco-libanais de Beyrouth est en danger?
C'est pas le grand lycée franco-libanais de Beyrouth qui nous préoccupe le plus.
D'accord.
D'abord parce que c'est un grand lycée historique, de centre-ville, appelons ça comme ça dans notre jargon scolaire. Ce sont plutôt les établissements qui, au nord du pays ou au sud, ont des communautés parentales plus fragiles, dans des villes qui sont très frappées par les phénomènes que j'ai cités tout à l'heure et où la difficulté à faire face à la dépense scolaire sera beaucoup plus forte. Et nous risquons de perdre beaucoup d'élèves, en effet, et de devoir reconfigurer les établissements. Mais tout l'enseignement privé, qui, je le rappelle, constitue la majorité, la part la plus importante du système scolaire libanais, est concerné par cela.
D'accord. Et est-ce que vous prenez l'exemple du Liban, il y a un conseiller consulaire qui s'appelle Ghassan Ayou, que nous connaissons bien chez les Français.press, qui est particulièrement impliqué dans la question de l'enseignement. Est-ce que vous avez des dialogues avec les élus locaux représentants des Français du Liban en l'occurrence, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus interne ou qui est plus en dialogue avec, avec d'autres acteurs comme l'AEFE par exemple?
Non, nous parlons avec tout le monde. Ghassan Ayoub, qui fait partie d'ailleurs des fidèles de la mission laïque, puisque il était notre communicant du grand lycée franco-libanais, on est un, et ce sont des voies extrêmement importantes pour faire remonter des informations de terrain que parfois nous pourrions ne pas percevoir, parce que tous ces élus français maillent un territoire social qui est au-delà de la communauté française expatriée. Ils sont très enracinés dans leur milieu d'origine, d'accueil, et ils y ont leur métier. Donc, ce sont des informateurs de première main, et dès l'instant qu'ils ont des choses à nous dire, ils savent nous trouver. C'est incontestable. C'est un d'ailleurs des débats qu'a soulevé la résolution, enfin, le dépassement de cette crise, c'est véritablement qu'il faut faire jouer, c'est un peu comme en France, hein, dans le maillage démocratique français. L'État ne peut pas agir sans la voix des élus, parce qu'ils sont représentatifs, parce qu'ils ont la légitimité des populations qu'ils représentent et qu'ils les définissent dans leur propre rôle.
Alors, je vais partir sur un autre continent, l'Amérique du Nord. Alors, sauf erreur de ma part, en Amérique du Nord, en dehors du lycée international de Dallas, les établissements avec lesquels vous travaillez sont des établissements où vous êtes partenaire. Je ne sais plus si c'est le terme exact que vous utilisez, mais ce sont des établissements américains auxquels la mission laïque propose son expertise. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que c'est la même réflexion que les établissements comme vous parliez à l'instant du grand lycée franco-libanais de Beyrouth, ou est-ce que c'est tout à fait une autre approche?
C'est une autre approche, d'abord parce que notre responsabilité face à ces établissements, comme vous venez de le dire, n'est pas de même nature, elle est de nature pédagogique, c'est-à-dire qu'ils attendent de nous que nous soyons un prestataire de services, à la fois pour les accompagner dans la reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale français, lorsqu'ils la souhaitent, lorsqu'ils veulent l'étendre, lorsqu'ils veulent, comment dirais-je donc, cette marque française qui est l'homologation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils attendent des services qui vont avec cela, c'est-à-dire notamment tout le travail que nous faisons sur la formation des professeurs, hein, je rappelle que c'est aux États-Unis qui constitue pour nous un grand exemple d'innovation pédagogique et scolaire que nous avons créé, ce que nous avons appelé le forum pédagogique, qui est une sorte de plateforme de rencontre sur laquelle, au fond, toute l'animation du développement professionnel pour nous, à la fois en Amérique du Nord et dans le monde, se déroule. Bon, mais on l'a inventé là-bas.
Trois pays, trois situations différentes donc, que ce soit au Maroc, au Liban ou aux États-Unis, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Notre prochain podcast, qui reprendra également l'interview de M. Jean-Christophe Devers, parlera des choses qui ont été mises concrètement en place par la mission laïque française au moment du confinement et par les propositions qui sont faites aux parents d'élèves et en particulier à celles et ceux qui sont en difficulté financière.